Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'épisode consacré aux questions posées par le médicament hospitalier. Le médicament hospitalier a un rôle clé dans la sécurité et l'efficacité des traitements. Les patients hospitalisés ne savent souvent pas que les médicaments qu'ils reçoivent ne sont pas seulement délivrés, mais aussi préparés à l'hôpital, parfois sur mesure, en prenant en compte leur état de santé précis, leur âge, leur poids, leur situation clinique. La gestion du médicament à l'hôpital pose des questions éthiques. Comment garantir un accès équitable et sécurisé au traitement lorsque certains médicaments se font rares? Comment garantir que les patients bénéficient des dernières avancées tout en assurant leur sécurité? Si la recherche pharmaceutique offre des promesses de guérison et de confort, elle s'accompagne également de risques. Comment dès lors concilier le besoin d'innovation avec le devoir de non-malfaisance des soignants? Les pharmaciens hospitaliers se retrouvent au carrefour de ces questions. Ils sont impliqués dans la réflexion sur la gestion des risques, la sécurité et le contrôle des effets secondaires. Et ils sont associés à toutes les évolutions qui concernent la santé à la fois du point de vue de la loi et de celui de la déontologie. Pour cette deuxième partie, je poursuis la discussion avec mes invités, Frédéric Évrard.
Bonjour. Frédéric Évrard, je suis pharmacien, praticien hospitalier au pôle pharmacie du CHU de Toulouse.
Marion Bourdoncle.
Bonjour, Marion Bourdoncle, je suis praticien hospitalier, actuellement pharmacien gérant au centre hospitalier de Condom.
Et Philippe Sestac.
Bonjour, Philippe Sestac, je suis professeur de pharmacie clinique au CHU de Toulouse et chef du pôle pharmacie.
Alors je vais revenir sur un moment qui a marqué l'éveil d'une certaine inquiétude, qui est la pandémie de Covid-19. Pendant cette pandémie, on a beaucoup parlé de certains services comme la réanimation, mais aussi, je pense que la pharmacie était sous tension et que vous avez connu quand même une période particulièrement difficile, parce que non seulement la question des traitements, justement, a été au cœur de vifs débats dans la société, mais il y a aussi eu beaucoup d'inquiétudes à propos de la raréfaction de certaines substances qui étaient, à ce moment-là, considérées comme indispensables aux soins. Ces tensions, elles se sont retrouvées à plusieurs niveaux. Frédéric, comment vous l'avez vécu, vous ?
La période Covid, ça a été une vraie période unique, hein, où on n'avait jamais connu ça jusqu'à présent. Et effectivement, ça a amené directement une vraie cohésion au sein de l'établissement, où on a senti toutes les bonnes volontés converger pour un but unique, c'est pouvoir continuer d'assurer le service public et la prise en charge de tous les patients. Et effectivement, ça s'est aussi ressenti dans la gestion de la prise en charge médicamenteuse des patients. On a connu des ruptures, des tensions à ce niveau-là. Il a aussi fallu apprendre à rapidement déployer de nouvelles thérapeutiques pour prendre en charge le Covid avec les solutions qui sortaient à l'instant dont on essayait soit dans le cadre d'essais thérapeutiques, soit dans le cadre de la vraie vie. Et ouais. Donc il y a eu toute une cohésion, une organisation pluridisciplinaire, médecins, anesthésistes, réanimateurs, pharmaciens, pharmacologues, toxicologues, biologistes, pour amener une conduite à tenir, une prise en charge vis-à-vis de ces médicaments-là destinés au traitement du Covid et en parallèle gérer la rupture et les tensions d'approvisionnement qu'on a connues à cette période-là. Et la gestion de rupture, c'est quelque chose qu'on continue à faire d'autant plus à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de pénuries de médicaments que les pharmaciens hospitaliers sont amenés à prendre en charge. C'est quelque chose qui s'accentue et D'accord. qu'on voit même arriver sur des typologies de produits dont on n'avait pas de rupture jusqu'à présent.
D'accord, c'est pas un thème qui est abordé dans la société et qui semble majeur, non, aujourd'hui ? Enfin, vous le vivez dans votre quotidien, mais ce n'est pas tellement mis en avant, ces questions de pénurie de médicaments.
Le pharmacien, il a un rôle au sein de l'établissement, c'est déjà de faire le premier tampon, de trouver des solutions face aux pénuries qui vont arriver tous les jours. et de trouver des alternatives, soit avec une même molécule, soit d'autres molécules pour atténuer l'impact de ces ruptures. Donc effectivement, il y a une grosse partie qui ne se voit même pas forcément pour les médecins cliniciens
d'accord,
au sein de l'établissement.
D'accord.
Mais pour autant, on n'arrive pas tout le temps à trouver une solution. Et effectivement, les tensions à ce moment-là se mettent en place et elles sont organisées au sein de l'établissement, en lien avec la communauté médicale. Et effectivement, c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais on en voit beaucoup en ville. Il y en a aussi à l'hôpital.
Et Marion, vous étiez déjà à l'hôpital de Condon à la période de la pandémie.
Oui,
alors,
tout à fait.
Alors comment ça s'est passé de votre côté ?
De la même façon, alors dans une moindre mesure, puisque du coup nos patients qui étaient atteints de formes graves de Covid étaient orientés dans des établissements avec des services spécialisés. Mmh. Mais on a malgré tout connu des pénuries, notamment sur les équipements de protection individuelle.
Oui, j'allais en parler, puisque finalement dans certains cas, c'est la pharmacie aussi qui s'occupe de ces équipements, c'est-à-dire les masques, les blouses, les gants, les lunettes de protection.
En effet, en fait, les EPI ne font pas partie du périmètre d'activité de façon réglementaire, on va dire, des pharmacies hospitalières. Mais historiquement, en fait, on peut être associé à cette gestion. Donc, c'est le cas notamment dans mon établissement. Et donc, effectivement, on a connu des fortes tensions avec, comme le disait Frédéric, des cohésions d'équipe pour utiliser au mieux nos ressources disponibles. Mmh. Et puis, on a eu quand même de l'aide un peu tardive, mais de l'aide avec tout ce qui est stock d'État, etc., qui nous ont vraiment aidés. Donc voilà, après, c'est vrai que les pénuries, ça reste un problème quotidien du travail de pharmacien hospitalier. Puis comme le disait Frédéric, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus transparent possible pour les médecins dans un premier temps, et puis surtout pour les patients.
Et est-ce que cette situation, on pourrait dire extrême, que vous avez traversée pendant la pandémie, est-ce qu'elle a modifié la gestion des médicaments et des hôpitaux, c'est-à-dire dans votre pratique quotidienne, justement, vous dites la pénurie, maintenant, ça fait partie de trouver des alternatives, en fait, à certaines molécules, j'imagine, ce genre de choses. Mais est-ce que vous stockez peut-être différemment ? Est-ce que ça donne envie, finalement, d'avoir un stock d'avance pour certaines choses ou...
Alors, c'est une vaste question, parce qu'en fait, à la fois sur certains produits, on a monté ce qu'on appelle les seuils de sécurité, notamment dans le domaine de l'infectiologie. En tout cas, on a tiré les leçons de cette crise. Mmh. Mais la problématique, c'est qu'il peut arriver une crise d'une autre nature et c'est toujours difficile, par définition, d'anticiper complètement
Bien
une crise.
Sûr, oui.
Donc, on a tiré une partie des leçons de cette première crise Covid. Aujourd'hui, quand même, tout ceci a accéléré la problématique de la rupture à l'échelon mondial. Il y a une certaine prise de conscience aussi sur la réinternalisation, ce qu'on appelle la souveraineté, récupérer une certaine souveraineté sur la fabrication de certains médicaments.
Au niveau national, vous voulez dire ?
Au niveau national, au niveau européen.
Ouais.
Voilà, en région Occitanie, sur l'ex-site de AZF, va arriver une entreprise de fabrication de paracétamol. Voilà, donc ça, c'est des leçons que l'on a tirées. Mmh. Mais il y a des problématiques qui explique aussi la rupture, parce que le mode de financement du médicament en France fait que on a les prix les plus bas, quasiment les prix les plus bas en Europe.
D'accord.
Et donc, en fait, lorsque les industriels, qui sont des structures mondialisées, en fait, vendent les médicaments, bah, par définition, ils peuvent préférer d'aller vendre dans des pays où les prix sont plus élevés.
Oui.
Et donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est quand même problématique, parce que notre quotidien, c'est, notamment dans un CHU, aujourd'hui, c'est, moi j'ai un pharmacien chez moi qui fait quasiment que ça à longueur d'année, c'est-à-dire gérer la rupture. Dans le métier de pharmacien hospitalier, ça permet aussi de redonner une partie des missions, c'est-à-dire que ben, pour approvisionner, il faut véritablement définir les produits qui vont être référencés dans un établissement, puisqu'en fait, on ne l'a pas dit ça en introduction, mais dans le médicament, en officine par exemple, il existe 20 000 références Et dans une structure telle que le CHU de Toulouse, c'est à peu près, le livret thérapeutique, c'est 10 fois moins, c'est-à-dire 2000 médicaments. Donc on choisit via ce qu'on appelle les commissions du médicament et des dispositifs médicaux, les COMEDIMS, avec de façon pluriprofessionnelle les médecins, les pharmaciens, on choisit les médicaments que l'on va référencer dans un établissement de santé.
D'accord.
Et donc ça fait partie aussi, parce que souvent les pharmaciens hospitaliers dans beaucoup de structures sont présidents de COMEDIMS, et donc ils ont aussi cette tâche de coordination sur quels sont les médicaments, quels sont les dispositifs médicaux que l'on va finalement autoriser dans l'établissement. Voilà. Et tout ce dont on parle sur la rupture, ben justement, le pharmacien hospitalier, il est en première ligne parce qu'il est dans le référencement, puis ensuite, il va participer aux procédures d'achat. Donc, on est avec des achats publics, hein, dans les hôpitaux publics. Voilà. Donc, voilà, c'est des processus complexes. Mais aujourd'hui, vraiment, notre travail s'est complexifié sur ce pan-là, et beaucoup, beaucoup de ruptures.
Donc, d'un côté, il y a cette question de la rupture dont on parle, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi une gestion du coût, et donc peut-être des discussions avec des laboratoires.
Appel d'offres. Alors, en fait, aujourd'hui, sur le médicament, on est passé par des centrales d'achat nationales, notamment Uniachat, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de ces éléments de négociation de prix dépassent l'établissement, notamment pour le médicament. Pour le dispositif médical, on a plus de marchés locaux ou régionaux, parce qu'il y a plus de spécificités. Le tissu économique des industriels du dispositif médical n'est pas le même. Ce sont moins de grosses entreprises par rapport aux médicaments. Donc, ça reste des marchés plus périmétrés, locaux ou régionaux.
Je me retourne vers Marion pour vous questionner sur la pharmacovigilance. Alors, ce n'est pas directement le rôle qui vous revient dans ce contexte. C'est, si j'ai bien compris, répertorier, signaler les effets indésirables de substances qui ont été prescrites, par exemple. C'est bien ça ?
Tout à fait. Nous sommes tenus, en fait, de déclarer les effets indésirables, c'est-à-dire les réactions nocives et non voulues des médicaments. Donc, en tant que professionnel de santé, on a cette obligation de signalement et de déclaration. Donc, on va signaler, bien sûr, en priorité, tous les effets indésirables qui sont graves, donc avec un décès, un pronostic vital engagé, une malformation congénitale ou une prolongation d'hospitalisation. Et puis, on va aussi signaler les effets indésirables qui sont inattendus, c'est-à-dire qui n'ont pas été décrits. Ils n'ont pas été décrits parce que les médicaments, avant d'être autorisés, font l'objet d'essais cliniques qui sont effectués sur des populations particulières. Donc, par exemple, on peut avoir des effets indésirables particuliers dans une population gériatrique, chez un insuffisant rénal, etc.
Oui, donc, en fonction du cas particulier du patient, en fait, il peut y avoir un effet nouveau.
Voilà,
donc,
c'est
il faut
ça.
Ajouter
comme
à la liste.
Tout à fait. Comme le médicament n'a pas été utilisé chez ces populations-là dans le cadre des essais cliniques, on va pouvoir voir apparaître des effets indésirables qui n'étaient pas décrits. Donc, il y a une surveillance en fait continue pendant toute la durée de vie du médicament. Donc, nous, en tant que pharmaciens hospitaliers, on est souvent les référents pharmacovigilance quand même de l'établissement. Donc là encore, soit ça va être les professionnels de santé qui vont nous signaler ces effets indésirables, soit on va le voir via les dossiers médicaux des patients quand on va faire notre analyse pharmaceutique des prescriptions.
Oui.
Et donc, en fait, on va faire un signalement auprès du Centre régional de pharmacovigilance qui va, lui, être en charge, finalement, d'analyser ces effets indésirables et de faire les remonter auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament.
Comment les médicaments à haut risque peuvent être évalués? Parce que là, on parle d'effets indésirables, mais les effets secondaires concernent tous les médicaments, je suppose. Là, quand on parle des médicaments à haut risque, donc les chimiothérapies ou les anticoagulants, par exemple, les effets secondaires sont importants. Est-ce qu'on peut vraiment évaluer ça?
Ces médicaments-là, mais comme tout médicament au préalable de sa mise sur le marché, fait l'objet d'essais cliniques. Donc, au départ, ça commence sur un petit nombre, même de ce qu'on appelle de volontaires sains. On va commencer à évaluer la pharmacocinétique du médicament, c'est-à-dire comment il se comporte dans l'organisme une fois absorbé, une fois administré. Et puis après, on va commencer sur un petit groupe de patients, c'est ce qu'on appelle de phase 2, Et puis, on va arriver à des essais sur une plus grande population étudiée et qui vont permettre de connaître l'efficacité dans cette population-là sur tout un tas de critères définis dans un protocole. Également, d'évaluer la sécurité de ce médicament-là et donc d'évaluer quel type d'effets indésirables peuvent être observés chez ces patients-là. Pour autant, comme le disait Marion, les essais cliniques vont concerner un petit nombre de patients qui n'a rien à voir avec la population en vie réelle in fine. Et c'est tout l'enjeu de la pharmacovigilance de détecter ces signaux de vraie vie et qui peuvent amener, il y a eu certaines affaires qui ont été levées via la pharmacovigilance.
D'accord.
Sur les médicaments à haut risque, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque médicament a un rapport bénéfice-risque qui va être favorable.
Oui.
Mais en fonction de l'indication du médicament, le bénéfice sera plus ou moins important. Mm-hmm. Sur un médicament anticancéreux, par mm-hmm. exemple, on attend une augmentation de la durée de survie
oui.
Du patient. Et donc, comme le risque est très, très élevé, on est sur diminuer la mortalité, par
oui.
exemple, alors que pour certains médicaments, on est pour diminuer la morbidité, mmh. eh bien, on peut avoir un risque plus élevé. On peut s'autoriser un risque plus élevé.
Oui,
pour expliquer le propos, un médicament de chimiothérapie classique, aujourd'hui, il est acceptable pour l'individu, pour la société, que ce médicament, par exemple, puisse entraîner des alopécies, perte mmh. de cheveux, mmh. puisse entraîner une diminution de certaines lignées sanguines,
oui.
ce qui serait complètement inacceptable pour un médicament antalgique, mmh. par exemple. Donc, en fait, c'est toujours la logique de la balance bénéfice-risque.
Oui.
Si le bénéfice est très, très élevé, par définition, on autorise collectivement un risque plus élevé. Par contre, ce risque-là, on se doit de l'encadrer. C'est-à-dire, je sais que ça va apparaître, par exemple, la diminution de la lignée sanguine. Aujourd'hui, il existe des médicaments pour encadrer ce risque-là.
D'accord.
Voilà. Et deuxième élément, dans les hôpitaux, parce que c'est un sujet d'actualité au niveau de la Haute Autorité de Santé, on a défini ce qu'on appelle les médicaments à risque, dans lequel on retrouve beaucoup oui. de ces médicaments-là. Et donc, lorsque les experts-visiteurs de l'HAS passent aujourd'hui, en 2025, ils sont très sensibles à quelle est la politique de l'établissement sur la gestion de ces médicaments à risque. Mmh. Donc, on y retrouve des médicaments que vous avez cités, on en retrouve d'autres, souvent les insulines, etc. etc.
Oui.
Des médicaments qui peuvent effectivement avoir des effets indésirables importants. Et aujourd'hui, c'est difficile d'établir une liste figée. Une liste figée, ça n'a pas de sens. Mmh. Ça dépend de l'activité d'un établissement, ça dépend de l'activité d'un service. Et donc, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est d'adapter, y compris ces listes, à chacun des services au sein d'un établissement.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est important de rappeler tout ça parce que, encore une fois, dès qu'un médicament est efficace, il y a du risque.
Oui.
Par définition.
C'est ça. Il a
voilà.
toujours un effet négatif.
C'est un rapport bénéfice-risque
voilà.
qui est favorable. Voilà. Mais il y a
oui.
toujours du risque.
Oui.
Et après, il faut encadrer ce risque. Et notamment, aujourd'hui, il faut véritablement bien identifier ces médicaments à risque et mettre en place une politique pour limiter ce risque dans l'utilisation des produits dans nos établissements et dans nos services cliniques.
Je vous remercie beaucoup tous les trois. Frédéric Évrard, Philippe Sestac et Marion Bourdoncle. Nous nous retrouvons dans une troisième partie pour poursuivre ces échanges. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.